sur Europe 1 à 8h40 dans la matinale de Thomas Soto.
Ah, petite Soto.
Ça faisait longtemps. Hein.
Retrouvez la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Ça t'intéresse pas quand je cause avec des politiques, c'est ça?
Nicolas Canteloup bouscule l'actualité avec son humour décapant.
Allez, viens dehors, stand-up, je vais te faire cracher ta banane, Soto.
Et ses imitations imparables.
J'adore votre matinale, c'est vraiment une émission de malade.
Nicolas Canteloup, du lundi au vendredi à 8h40 dans la matinale d'Europe 1.
Europe 1, un temps d'avance.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le douanier Rousseau, l'innocence archaïque, c'est le titre de l'exposition que propose le musée d'Orsay jusqu'au 17 juillet. Franck Ferrand y a trouvé l'inspiration. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Cette exposition nous offre deux occasions. Admirer l'œuvre du douanier Rousseau en compagnie de Serge Legas, qui est notre invité cet après-midi. Et à titre de mise en jambe, découvrir, je le disais à l'instant à Jean-Michel Apathy, un aspect inattendu de ce drôle de personnage. Quand je dis le drôle de personnage, pas Serge, le douanier bien sûr.
Tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Jules sur les origines du pique-nique.
Eh bien, cette saison, ça. Pour le moment, je vais vous raconter une sombre affaire d'escroquerie bancaire. Mais si.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Des visages figés, des félins expressifs, des couleurs crues, une végétation de velours et des compositions aux perspectives originales. C'est un véritable univers que l'on appelle l'art naïf qu'a créé le peintre Henri Rousseau. Un mouvement artistique en proie aux moqueries de bien des contemporains, mais qui n'a pas été sans admirateurs, dont Pablo Picasso, qui, il faut le dire, aimait toutes les transgressions, et dont pas mal de surréalistes. Henri Rousseau dit donc... Le douanier Rousseau est un personnage à part, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un autodidacte, son style est assez singulier, à la fois figuratif et primitif, à l'écart des courants avant-gardistes de son temps, que sont le fauvisme, le cubisme, etc. Paul Éluard dira de Rousseau « Ce qu'il voyait n'était qu'amour et nous fera toujours des yeux émerveillés ». Peintre, Rousseau bien sûr, mais aussi musicien, poète, dramaturge. À la fin de sa vie, il devait même faire une incursion remarquée dans la chronique judiciaire, et c'est ce que je vais vous raconter avant d'en revenir à l'artiste, évidemment, en compagnie de Serge Legas. Nous sommes le vendredi 8 janvier 1909 devant les assises de la Seine, et c'est le début d'un procès qui pourrait bien durer 2 ou 3 jours. Catégorie de l'affaire, faux et usage de faux en écriture bancaire et escroquerie, s'il vous plaît. En soi, rien de bien affriolant, et pourtant, les journalistes sont nombreux à l'entrée de la cour d'assises, bien plus qu'à l'accoutumée, et pour cause, la victime n'est pas n'importe qui, il s'agit d'une personne morale, la Banque de France. La vénérable institution s'est en effet constituée partie civile contre 2 accusés bien distincts. Ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. L'un est employé de banque, il a 29 ans, il est commis de 3e classe à la Banque de France, succursale de Meaux. Il est célibataire, il s'appelle Henri Sauvaget. L'autre ? Ah ben l'autre n'a rien d'un jeune homme, c'est même un vieux monsieur pour l'époque. Il faut imaginer son crâne dégarni, sa moustache blanche. On se demande bien ce qu'il fait là, ce modeste employé de douane à la retraite. Vous me voyez venir évidemment. Il s'agit d'Henri Rousseau. Le dossier d'accusation le présente comme veuf, père d'un enfant et résidant dans le 14e arrondissement de Paris, rue Pérel. Aucun mot du greffier sur ses activités de peintre. En 1909, Henri Rousseau a 64 ans, il n'est pas en bonne santé, et il va même très mal, à vrai dire. Depuis qu'il est à la retraite, c'est-à-dire depuis 15 ans, il se consacre pleinement à la peinture qu'il a découverte sur le tard et apprise de lui-même en bonne autodidacte. Rousseau affirme avoir commencé à peindre vraiment à 42 ans. Alors il a réalisé des portraits, des paysages, des natures mortes. Son thème de prédilection est nettement plus exotique. Ce sont les jungles tropicales, les combats entre animaux sauvages ou des œuvres plus apaisées comme la célèbre Charmeuse de Serpent. Rousseau prétend s'être inspiré de ses nombreux voyages, notamment de son long séjour au Mexique où il revendique avoir fait partie de l'expédition lancée par Napoléon III entre 1861 et 1867. Dans son ode à Rousseau, Guillaume Apollinaire écrit en 1908 « Tu te souviens, Rousseau, du paysage aztèque, des forêts où poussaient la mangue et l'ananas, des singes répandant tout le sang des pastèques et du blond empereur qu'on fusilla là-bas, les tableaux que tu peins, tu les vis au Mexique. » Tu ne les vis pas du tout, puisqu'Henri Rousseau n'a jamais été au Mexique, ni d'ailleurs dans aucun autre pays tropical. Le pauvre homme s'est simplement servi pour représenter cette végétation luxuriante et ces animaux exotiques, de livres pour enfants, de revues illustrées, de photographies, de cartes postales, de visites au jardin des plantes, au jardin d'acclimatation. En général, la vie de peintre n'est pas facile, c'est vrai, mais il faut dire que la vie de peintre amateur est encore plus difficile. Il faut quelques fonds quand même pour acheter du matériel, des châssis, des toiles, des couleurs. La retraite du sieur Rousseau ci-devant commis d'octroi, d'où son surnom de douanier, est fort mince. Et puis, disons-le, Rousseau est un incompris. La presse présente à l'audience du 8 janvier 1909 ne le connaît pas du tout. C'est pas pour lui qu'on est venu, c'est pour la Banque de France. Personne ne le comprend. D'ailleurs, on ne cherche pas à le comprendre. Il est présenté dans la presse de l'époque comme peintre impressionniste, ce qui est assez comique quand on connaît l'œuvre. Il a quand même quelques acheteurs, dont le célèbre marchand de tableaux Ambroise Vollard. On verra ça tout à l'heure avec Serge. Alors, heureusement pour lui, Rousseau a quand même des relations. Il organise souvent chez lui près de Montparnasse, un peu comme ça au pied levé, hein, des soirées musicales, artistiques, on dirait des soirées bohèmes, où viennent Picasso, Apollinaire donc, mais aussi le peintre Marie Laurencin, les écrivains Jules Romain, Alfred Jarry, le poète Max Jacob. Les invités disent des vers, ils chantent, ils jouent de la musique. On se dit qu'on aurait bien aimé être petite souris lors de ces soirées où Rousseau s'invente, vous l'aurez compris, toute une vie. Cet homme est purement mythomane. Il se dit grand soldat, il dit qu'il a fait la guerre de 1870, etc. Bref. Il a d'autres activités. Par ailleurs, il est prof bénévole de peinture et d'aquarelle. Il donne également des cours de violon. Il appartient à l'amicale de musique du 5e arrondissement où il joue de la clarinette. On pourrait presque croire, et vous allez comprendre dans un instant pourquoi je dis ça, qu'il jouait surtout du pipeau. Il écrit, je vous ai dit, des petites pièces de théâtre. Il est franc-maçon, Rousseau. Il s'intéresse à la politique assez pour devenir membre du comité radical socialiste de son quartier. Bref, cet homme simple, solitaire, discret, a une vie privée qui n'est pas très fantaisiste. Il a été deux fois veuf, il a eu 7 enfants avec sa première femme, dont un seul a survécu. Bref, on est quand même loin du gibier de cour d'assises. Et voilà qu'en ce 8 janvier 1909, donc, on s'apprête à juger notre artiste dans une affaire d'escroquerie où il risque une peine de travaux forcés. Vous allez voir que l'affaire mérite qu'on la raconte.
Extrait du concerto pour piano en sol composé par Maurice Ravel sur Europe 1. Restez avec nous. Franck Ferrand, cet après-midi, a décidé de vous raconter l'histoire du peintre Henri Rousseau, pas celle de sa vie, un épisode judiciaire, plutôt une affaire que vous nous racontez en détail maintenant, Franck.
Et oui, en 1907, Henri Rousseau croise donc dans les rues de Paris un jeune homme qui s'appelle Henri Sauvaget, qui, je vous l'ai dit, est employé à la succursale de la Banque de France à Meaux. C'est un tout petit employé, hein. Il est commis de troisième classe. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois quelques années plus tôt à l'amicale de musique du 5e arrondissement. On est vraiment dans cette vie de la Troisième République, hein, qui nous fait sourire aujourd'hui. C'est assez sympathique d'ailleurs. Henri Sauvaget explique à Rousseau qu'il possédait 18 000 francs. Grosse somme. Mais que cette somme se trouve bloquée pour des histoires un peu compliquées à la Banque de France. Ah, ces salauds de banquiers, vous savez. Alors l'autre qui est assez anarchiste, Rousseau, bien entendu, il compatit complètement. C'est très loin de la vérité tout ça, puisque notre employé de banque a joué tout son argent en bourse et qu'il l'a perdu et qu'il se retrouve sans le sou et qu'il cherche à monter un coup pour essayer de se refaire. Henri Rousseau, semble le croire de bonne foi. Et il se dit que s'il peut faire quelque chose pour aider Sauvager à essayer de récupérer un peu de cet argent qui est bloqué par la Banque de France, eh bien, il va l'aider. S'il faut gruger un peu la Banque de France, bon, je vous l'ai dit, là, ce côté un peu anard, comme ça, qui ne s'en alarmera pas. Pardon. L'idée de Sauvager est toute simple. Présenter à un guichet de la banque un faux bordereau de mise à disposition d'une certaine somme d'argent, supposée être à la disposition du porteur, bien entendu. Donc, par un beau matin, Henri Rousseau passe à l'acte. Il s'est rendu à Lyon pour l'occasion. Il faut un petit peu brouiller les pistes. Il se présente au comptoir locaux de la Banque de France. Il demande s'il peut ouvrir un compte. Faut imaginer notre petit Henri Rousseau, qui est un petit bonhomme, très modeste. Il n'a pas l'habitude d'ouvrir des comptes en banque, et encore moins à la Banque de France. On lui dit oui, monsieur, pas de problème. Il faut remplir ce formulaire. Bon, bref. Il dit, je vais déposer 500 francs. Ben oui, très bien. Déposer 500 francs. Et il demande un carnet de chèques, évidemment, pour monter son arnaque. Ah, on lui dit, monsieur, pour 500 francs, vous n'avez pas droit à un carnet de chèques. Ah, ça c'est embêtant, parce que maintenant il faut récupérer les 500 francs. Comment faire? Ils sont immobilisés là pour rien. Lui ne peut pas donner son identité, parce que Sauvager lui a dit, absolument, ne donnez pas votre identité. Bon, alors comment faire? Ni une ni deux, notre escroc amateur trouve une solution. Il va faire adresser un mandat poste à un certain monsieur Martin, résident à Paris, dans un hôtel de sa connaissance. Problème, quand Rousseau rentre à Paris, il découvre que l'hôtel en question est complet. Il n'a pas pris la précaution de louer une chambre au nom de monsieur Martin, bien entendu. Et on va le voir pendant 2 jours entiers faire les 100 pas sur le trottoir en attendant l'arrivée du facteur avec son mandat poste, bien entendu, puisque monsieur Martin n'existe pas. Bref, il finit par trouver le facteur, il se fait passer pour Martin, ça y est, il a récupéré ses 100 francs, un coup pour rien. Alors, Rousseau se rend ensuite à la Banque de France de Laon, dans l'Aisne. Il dépose à nouveau 500 francs. Évidemment, il n'obtient pas davantage de carnet de chèques puisqu'il faut déposer 1000 francs pour en obtenir un. Sauvager, qui commence à s'inquiéter de la situation, conseille à Rousseau de ne pas rapatrier toute la somme, parce que là, ça finirait par éveiller les soupçons. Un bonhomme qui passe son temps à ouvrir des comptes dans toute la France et qui se fait ensuite envoyer des mandats, vous voyez, bon. Donc, Rousseau ne récupère que 400 des 500 francs déposés, et c'est là qu'il commet une nouvelle erreur. Pour retirer la somme, là, il est bien obligé de présenter une pièce d'identité. Il n'en a pas. Il donne carrément son livret de famille. Donc, on note son nom, son adresse, etc. Ça fait quand même 2 échecs cuisants. Alors Rousseau va se présenter à une 3e agence de la Banque de France, cette fois à Melun. Il a sur lui des faux papiers. Il se fait appeler bailli, propriétaire à Lieusaint, donc tout près de là. Il a 1000 francs sur lui. C'est la somme nécessaire pour obtenir le fameux carnet de chèques. Or, Sauvager est employé à la Banque de France de Meaux. C'est une succursale qui est en relation directe avec celle de Melun. Il peut donc se procurer des modèles de bordereaux pour imiter, pour faire des faux papiers. Et il sait imiter la signature du directeur, du caissier, etc. Là, on arrive dans des choses très graves, bien sûr. L'employé de banque, donc Sauvager, fait commander, toujours par Rousseau, il fait commander à un imprimeur de faux bordereaux de mise à disposition avec les mentions quand même Banque de France, Monsieur le directeur de la banque, un tel, etc. Je ne sais pas si vous imaginez, là on est dans le faux usage de faux, escroquerie aggravée. Là ça commence à aller chercher loin cette histoire. Bref, Sauvager établit un faux bordereau de mise à disposition, émis théoriquement par la Banque de France de Melun, à l'adresse de son correspondant, la Banque de France de Meaux. Et là tout va très vite. À Melun, on donne l'ordre à la succursale de Meaux de mettre à disposition du dénommé bailli, donc propriétaire à Lieusaint, la somme de, tenez-vous bien, 21 000 francs. C'est une somme importante, 21 000 francs en 1907. C'est, pour vous donner une idée, c'est le montant annuel de la retraite de Rousseau, c'est même un peu plus. Le peintre se présente donc au guichet et après production de tous ces affreux faux papiers au nom de bailli, il signe un chèque à ce nom et il retire les 21 000 francs. Un peu plus tard, à la gare de Meaux, Rousseau retrouve Sauvager, il lui remet sur les 21 000, 20 000 francs et il rentre à Paris avec seulement en poche sa petite commission. Enfin, petite commission, c'est quand même 1000 francs. Est-ce qu'il faut préciser qu'assez vite, la Banque de France va découvrir la supercherie, évidemment. La succursale de Melun informe celle de Meaux que le bordereau de mise à disposition est un faux, que le dénommé bailli n'a jamais déposé une telle somme dans ses coffres, et on découvre très vite que bailli, propriétaire à Lieusaint, ça n'existe pas. Alors on se met à chercher la personne qui a encaissé les fonds renvoyés sous pli recommandé par la Banque de France de Laon. N'oubliez pas qu'il s'était fait adresser ces fonds.
Et il avait pour l'occasion donné son livret de famille. Autrement dit, on a son identité. Et le 2 décembre 1907, au matin, on tambourine à la porte du domicile du douanier Rousseau, donc au 2 bis de la rue Perelle à Paris. C'est la police, le peintre ouvre, un agent perquisitionne, il trouve très facilement d'ailleurs le carnet de chèques établi au nom de Bailly par la Banque de France de Melun. Rousseau n'a plus qu'à reconnaître les faits, il passe aux aveux, il se voit écroué dans la foulée à la prison de la Santé. Le rapport que la police fait de lui est peu reluisant du reste. Il est décrit comme un individu ayant une conduite irrégulière et sans moyen d'existence avouable. Ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait vrai puisqu'il a quand même sa pension, mais bon. Et alors voilà ce que dit le rapport de police. Ses mœurs et sa probité sont des plus douteuses, mais on ne lui connaît tout de même pas de fréquentation du sexe masculin. C'est déjà ça. Il reçoit seulement assez souvent la visite de femmes en compagnie desquelles il fait la noce chez lui, dit le rapport de police, mais on n'a jamais connu le nom et l'adresse de ces femmes. Bon, cet individu se livre quelque peu à des travaux de peinture à l'huile, mais ses œuvres sont sans valeur.
L'épisode judiciaire dans la vie du douanier Rousseau, voilà ce qu'a décidé de vous raconter cet après-midi Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir à cette histoire sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et grâce à vous, Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1, nous découvrons l'affaire qui a envoyé le douanier Rousseau en prison.
Eh oui, à la prison de la Santé où il se trouve donc en décembre 1907 quand il décide d'écrire au juge d'instruction. Alors il ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, il aurait du mal hein, du reste. Mais il clame son innocence de fond. Il rappelle qu'il n'avait rien compris à toutes ces manigances d'Henri Sauvaget, que lui croyait qu'il s'agissait de récupérer l'argent bloqué par la Banque de France, de l'argent que vous l'avez compris n'existait pas du tout. Il n'a pas compris qu'il était lui-même le complice d'une énorme escroquerie. Enfin, en tout cas, énorme. Non, on a vu mieux depuis, n'est-ce pas? Mais d'une incontestable escroquerie, voilà, c'est plus juste. Dans ses courriers au juge, Rousseau fait part de ses obligations d'artiste. Vous comprenez, monsieur le juge, je dois honorer mes commandes, préparer ma prochaine exposition, et puis donner mes cours à l'école philotechnique. Rousseau propose même au juge d'instruction de lui faire son portrait, et de lui faire cadeau, s'il veut, de 2 ou 3 paysages. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui va motiver le magistrat, mais le fait est qu'après un mois de détention à la Santé, Henri Rousseau bénéficie d'une mise en liberté provisoire. Il sort le 31 décembre 1907. Il est à ce moment-là toujours sous le coup de son inculpation, mais il reprend une vie néanmoins presque normale. Il expose 4 tableaux au Salon des Indépendants, dont Le combat du tigre et du buffle, dont Les joueurs de football. L'année 1908 va être très prolifique. Il réalise notamment La carriole du père Junier. À la fin de l'année, Picasso va organiser pour lui au bateau Lavoir un grand banquet auquel participent toujours Guillaume Apollinaire, Max Jacob et les autres. Vous voyez que cette affaire judiciaire n'a pas l'air de les ennuyer plus que ça. Même pas du tout, d'ailleurs. Au moment de rentrer chez lui au petit matin, Rousseau aurait lancé à Picasso « Nous sommes les 2 plus grands peintres de notre temps, toi dans le genre égyptien, moi dans le genre moderne. » Je ne commenterai pas cette assertion. Et donc, quelques semaines plus tard, le vendredi 8 janvier 1909, Rousseau comparaît devant la cour d'assises de la Seine pour cette fameuse et sombre affaire d'escroquerie. Le peintre et son avocat se montrent assez confiants. Alors, quand même, il risque le bagne dans cette histoire, et c'est d'ailleurs ce que va requérir l'avocat général près la cour d'assises. Mais Sauvaget, donc cette espèce d'employé de banque à l'origine de l'escroquerie, Sauvaget tient à endosser toute la responsabilité de l'affaire. Quand même, il ne va pas laisser accuser son complice. Le fait est que son dossier ne plaide pas en sa faveur. Il a déjà détourné 1800 francs lorsqu'il était employé de la Banque de France à Périgueux cette fois. Il a joué et perdu d'énormes sommes en bourse. Rousseau et son avocat vont rester sur cette ligne de défense que leur offre en quelque sorte l'instigateur de l'escroquerie. Le peintre le dit et le répète constamment, il ne savait rien de toutes les manigances de Sauvaget. Il avait simplement l'intention de l'aider. Le procès va prendre bientôt une tournure particulière parce qu'on cherche à savoir quels sont les moyens de subsistance de ce douanier Rousseau. Et on finit par comprendre que la peinture occupe maintenant une place importante dans sa vie. Un des témoins de moralité de Rousseau, d'ailleurs, n'est autre que le peintre Maximilien Luce, un artiste pointilliste, lui tout à fait respecté. Le président de la cour d'assises échange avec Rousseau. Les deux hommes ne sont pas d'accord sur la technique employée par le peintre. Et là, l'avocat, qui s'appelle Georges Guillermet, se dit c'est le moment ou jamais d'amadouer le jury. Alors, il se met à discuter peinture et il met sous le nez de la cour d'assises une peinture qui représente un paysage exotique avec des singes juchés sur des cocotiers. Alors là, Guillermet est très content de son coup et dans ses mémoires qui s'appellent « Souvenirs d'un avocat de la belle époque », il dira qu'en vérité, les primates représentaient le président, ses assesseurs, l'avocat général, le greffier et les 12 jurés, et qu'on s'est bien moqué de la cour. On n'a aucune preuve de ça, mais enfin, il faut reconnaître que c'est assez drôle comme théorie. Le samedi 9 janvier 1909, après un délibéré d'une heure seulement, les condamnations tombent. Henri Sauvaget, donc l'accusé principal, est condamné à 5 ans de réclusion, on disait de travaux forcés à l'époque, et Henri Rousseau à 2 ans seulement, avec sursis. Ouf ! Il demande au président, avant de quitter la salle, son adresse personnelle. Il lui dit « J'apporterai mon matériel et je ferai le portrait de votre dame de la grandeur que vous voudrez. » Rousseau va pouvoir se remettre à peindre. Il doit d'abord s'acquitter des honoraires de son avocat. Alors là encore, il n'a pas les moyens. Donc il propose à Guillermet 2 tableaux, un portrait et une grande toile célèbre, « Les éclaireurs attaqués par un tigre ». Il réalise d'autres œuvres à partir de là, comme Le Rêve, un tableau de 3 mètres de long sur 2 de haut, qui est présenté dans l'actuelle exposition du musée d'Orsay. Et en le découvrant au Salon d'automne, ce tableau, son ami Guillaume Apollinaire aura ces mots « Cette année, personne ne rit, tous sont unanimes, ils admirent ». Le douanier Rousseau va recevoir la commande de 3 tableaux pour une exposition en Russie, s'il vous plaît. Et oui, la Russie tsariste s'intéresse à son art. Simplement, il n'aura pas le temps d'aller jusque-là, puisqu'il meurt subitement, le 2 septembre 1910, dans un hôpital parisien, d'une gangrène à la jambe. Seules 7 personnes vont assister à ses obsèques, dont les peintres Paul Signac et Robert Delaunay. Il est inhumé dans une fosse commune, au cimetière de Bagneux, et il faudra attendre 35 ans en 1947 pour que les cendres de l'artiste soient transférées dans sa ville natale, à Laval. Sur sa tombe, on peut lire une épitaphe de Guillaume Apollinaire. Et nous allons nous quitter, en tout cas laisser monsieur Rousseau sur ces vers d'Apollinaire avant d'entrer maintenant dans son œuvre et de découvrir sa peinture. Laisse passer nos bagages en franchise à la porte du ciel. Nous t'apporterons des pinceaux, des couleurs, des toiles, afin que tes loisirs sacrés dans la lumière réelle, tu les consacres à peindre, comme tu tiras mon portrait, la face des étoiles. Bonjour Serge Lega.
Bonjour Franck.
Voilà un début d'émission artistique et picturale, somme toute assez peu picturale, assez peu artistique. Grâce à vous, nous allons bien sûr très vite rattraper le temps perdu.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Un extrait de La Parade composé par Eric Satie sur Europe 1. Et cet après-midi, c'est le douanier Rousseau qui est à l'honneur dans Cœur de l'Histoire avec une exposition intitulée Le douanier Rousseau, l'innocence archaïque, à voir au musée d'Orsay jusqu'au 17 juillet. Franck Ferrand.
J'ai entre les mains l'invitation à cette exposition qui, sur un grand volet, propose une représentation du rêve, donc la dernière grande œuvre du douanier Rousseau. Et on est dans cette fantasmagorie à la fois tendre, profonde, dans un univers évidemment très onirique, puisqu'on y voit dans une végétation profuse, peuplée d'oiseaux exotiques et d'oranges qui ont l'air de vibrer dans l'obscurité. C'est la nuit, hein. C'est une nuit quand même avec un énorme clair de lune. On voit la lune d'ailleurs dans un coin du tableau, la lune aussi ronde que les yeux des énormes fauves, hein, des lionnes qui sont là tapis dans les palmes au milieu de fleurs de lotus, d'un bleu, d'un gris, d'un rose nacré, pas moins nacré que les formes plantureuses de la dame assise au premier plan, enfin allongée plutôt tout de son long sur une sorte de canapé de jungle. Tout ça est extraordinaire, Serge Lega, on est dans quelque chose d'assez surréaliste.
Mais totalement, on peut comprendre l'influence du douanier Rousseau sur tous les surréalistes à venir, André Breton, Breton en a fait une véritable icône. Et c'est vrai que le tableau que vous décrivez, Le Rêve, montre de façon absolument sidérante ce canapé Louis-Philippe, hein, totalement Louis-Philippard, dans une jungle avec...
Comme s'il était tombé d'hélicoptère.
Ah, exactement. Et la jeune femme, c'est l'énigmatique Jadwiga. Jadwiga, c'était une jeune Polonaise dont le Denis Rousseau avait été très amoureux et il en fait une sorte de déesse de la jungle. C'est un souvenir d'amour que cette jeune femme représente.
Bonne idée du musée d'Orsay de consacrer comme ça une rétrospective au Denis Rousseau, qui d'ailleurs a adopté d'emblée un parti pris différent de ceux que l'on adopte habituellement.
L'exposition est une exposition tout à fait originale puisque nous ne sommes pas dans une rétrospective traditionnelle, puisque l'idée c'est de mettre toujours en parallèle le Denis Rousseau avec les influences qui peuvent être celles que l'on peut voir dans sa peinture et voir également l'influence du Denis Rousseau sur les avant-gardes. Donc on a une sorte de double jeu, regard vers le passé, quelles seraient les sources d'influence du Denis Rousseau et ouverture sur l'avenir, comment Picasso, Kandinsky, Delaunay, etc. ont regardé l'œuvre.
Delaunay, c'est très spectaculaire, la ressemblance.
Et Delaunay est peut-être un des hommes les plus proches du Denis Rousseau. Oui. Il y avait vraiment une affection véritable et un sentiment de complémentarité entre les deux.
On se rend compte finalement que ce Denis Rousseau, longtemps présenté comme un petit personnage totalement à l'écart de tout, qui travaillait tout pont coupé et sans aucun rapport avec l'art de son temps, se trouvait en vérité au cœur d'un véritable bouillon de culture, qu'il avait des relations étroites avec un certain nombre de personnages, nous allons y venir tout à l'heure, mais notamment Apollinaire, hein, bien
oui,
entendu.
Il a beaucoup d'amis écrivains, poètes. Apollinaire est sûrement un des plus célèbres, mais Max Jacob, voilà, Sandrars est également présent. Et c'est là où on voit que le Denis Rousseau est vraiment quelqu'un, et je pense que l'exposition du musée d'Orsay arrive à point nommé, qu'il faut un peu libérer des stéréotypes que l'on avait traditionnellement sur lui, entre autres ce terme d'art naïf qui veut tout dire et rien dire, et puis montrer aussi que le Denis Rousseau s'inscrit peut-être plus dans une sorte de primitivisme en tant que tel que dans l'idée qui est véritablement simplement cette idée d'art naïf. Et c'est là où il apporte un nouveau regard au niveau de la culture, aller trouver d'autres sources d'influence pour les artistes.
Alors je ne voudrais pas que nos auditeurs, cher Serge, s'imaginent que le Denis Rousseau a été seulement un escroc. Il a été, vous l'aurez compris, impliqué plus ou moins consciemment dans une affaire d'escroquerie assez sordide. Du reste, la très mauvaise attitude qu'il adopte à chacune à chacun des épisodes de cette affaire prouve d'ailleurs qu'il était de bonne foi.
Alors là, on peut parler d'une naïveté de la part du Denis Rousseau dans ses attitudes. C'est un personnage. D'ailleurs, soyons francs, beaucoup de ses contemporains le décrivent comme un simple d'esprit. Et c'est d'ailleurs même une des choses assez étonnantes. Vous en avez parlé, Franck, le fameux banquet que Picasso organise au bateau Lavoir exactement moment de ce procès,
puisque
juste avant on est entre l'emprisonnement et le procès, eh bien ce fameux banquet en 1908 au bateau Lavoir, certains se demandent s'il n'y avait pas une attitude qui serait peut-être de se moquer un petit peu de lui. Alors on pense qu'en fait non, c'était quand même un véritable hommage,
mais par exemple,
Robert Delaunay a refusé d'assister à ce banquet, ce qui est quand même très intéressant, puisque Delaunay est un fidèle du Denis Rousseau, et lui a absolument refusé d'être présent.
Ce serait bien dans l'esprit moqueur d'un Picasso.
C'est ce que j'allais dire. Quand on connaît Picasso, on pourrait imaginer qu'il y a peut-être un double degré de lecture dans ce banquet qui s'appelait Honneur à Rousseau, quand même.
Ouais. Alors, ce pauvre petit Rousseau, si je puis dire, il était né sans faire de bruit, comme il mourra sans faire de bruit. Du reste, il est né à Laval.
Complètement. Il est né le 21 mai 1844. Il est issu d'une famille très modeste puisque son père est ferblantier. Et en plus, ce père fera de très mauvaises affaires et on peut parler vraiment d'une faillite. Ça explique d'ailleurs une enfance un peu chaotique. La famille a déménagé assez régulièrement du fait des problèmes financiers. Il est le premier garçon. En fait, le troisième enfant, mais il avait plusieurs sœurs avant lui, se retrouve dans une famille où les problèmes financiers sont là, c'est pas un très bon élève, c'est un élève qui est pas très intéressé par les études, et puis, comme c'est un milieu où on n'a pas d'argent, bah, il faut qu'il gagne de l'argent. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que très jeune, il se trouve déjà dans un problème qui lui vaudrait l'emprisonnement,
voilà.
Alors qu'il est mineur, puisqu'en fait, alors qu'il travaille pour un avoué à Nantes, il a volé 20 francs de l'époque et quelques timbres. On mentionne les quelques timbres. Et là, il est condamné. Et c'est à ce moment-là, pour éviter la maison de correction, puisqu'il était mineur, va s'engager à Angers dans le 51e régiment d'infanterie. D'où après cette espèce de mythe de la campagne du Mexique, etc. Beaucoup des comptes rendus sur le Mexique, ce sont ses amis qui sont les artilleurs, qui eux ont fait la guerre du Mexique et qui l'ont raconté des souvenirs. Alors, parce que lui n'y est jamais allé.
Ça aurait pu coïncider, puisqu'il va justement être dans l'armée de 1862 à 68, c'est-à-dire exactement au moment de la fameuse campagne mexicaine.
Ça aurait pu. Et c'est là aussi où on se rend compte d'une chose, vous l'avez suggéré dans votre présentation, Franck, dans votre récit, c'est qu'il y a un côté mythomane. Ah oui, aussi chez le douanier Rousseau, il adore mettre en scène son personnage. Et alors là-dessus, quand beaucoup plus tard, Apollinaire s'intéresse à lui, Apollinaire va totalement entériner cette mythomanie. Parce qu'alors Apollinaire va vraiment donner une image du douanier Rousseau qui est une image tout à fait en dehors de la réalité. Apollinaire va d'une certaine façon concrétiser cette mythomanie. En petit détail amusant, par exemple, le douanier Rousseau portait les palmes académiques. Il a jamais eu les palmes académiques. C'est tout simplement quelqu'un qui portait le même nom et il avait usurpé cette décoration qu'il a toujours portée dans ses autoportraits. Il a les palmes académiques. Donc ça montre aussi, d'ailleurs, une chose.
En même temps, une soif de reconnaissance,
eh bien,
peut-être.
Voilà, absolument. Le douanier Rousseau, étonnamment, est quelqu'un qui aurait adoré être reconnu officiellement. Et ça aussi, c'est un aspect qu'on n'imagine pas, puisqu'on a le petit côté anarchiste dont vous avez parlé. Mais en même temps, il aurait beaucoup aimé être reconnu d'une façon traditionnelle et consacré par les institutions, ce qui ne sera évidemment pas du tout le cas.
Alors, après la mort de son père, il va donc quitter l'armée. Il est soutien de famille. Donc,
oui, d'ailleurs, il quitte l'armée, je dirais, parce que son père meurt. Il s'était engagé pour 7 ans. Et quand son père meurt, il est soutien de famille, puisqu'il est le premier garçon de la famille. Et donc, à ce moment-là, son engagement s'interrompt pour qu'il puisse aider sa famille.
Et il va très vite se marier avec Clémence Boitard.
Voilà, c'est sa première épouse.
On est vraiment dans la vie tout à fait banale des Français moyens du 19e siècle.
D'ailleurs, la vie du douanier Rousseau est une vie petite bourgeoise. Là aussi, on imaginerait... Alors évidemment, il y a un petit côté très alcoolisé quand même. Ça, c'est une chose assez récurrente. Mais en dehors de ça, c'est une vie petite bourgeoise. Il a une première épouse, Clémence, avec laquelle, vous l'avez dit, il aura plusieurs enfants, dont la plupart meurent jeunes. Et puis, il se remariera par la suite avec Joséphine Rosalie Nourri, qui est une veuve, et ça sera sa deuxième épouse. Et voilà, donc deux mariages, en dehors de ça, c'est une vie qui est une vie sans grande aspérité.
L'aspérité... Il est petit commis, il est clerc d'huissier, voilà. Après il va entrer comme commis de deuxième classe, c'est ça?
Exactement, il rentre à l'octroi de Paris.
Alors, expliquer,
oui, petite chose, il a jamais été douanier, hein. C'est Alfred Jarry qui se voulant jouer, parce qu'en fait il s'occupe de l'entrée des marchandises dans Paris. Donc quelqu'un qui est à l'octroi n'est pas un douanier au sens traditionnel. Alors ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il s'occupait surtout des vins et alcool. Alors là-dessus, objectivement, il avait une certaine spécialisation. Et il s'occupe de ça, donc il est commis de deuxième classe à l'octroi de Paris. Et c'est Alfred Jarry qui plus tard, pour s'amuser, le surnommera le douanier. Mais au sens étymologique du terme, il n'est pas vraiment douanier. C'est un personnage qui travaille à l'octroi et qui vérifie les marchandises entrant dans Paris.
Alors, on ne parle pas beaucoup de peinture dans tout ça. J'avais dit qu'on parlerait de peinture et elle vient tard, la peinture.
Elle vient très tard. Il a quasiment 40 ans quand il se met vraiment à cette création artistique. Et là aussi, chose très intéressante, nous savons qu'il sera copiste au Louvre. Alors ça, c'est aussi une chose qu'on a trop longtemps laissé de côté. C'est justement, on parle toujours du côté autodidacte. Mais on oublie ce qu'il est allé se nourrir des œuvres du Louvre. Et vous en avez parlé tout à l'heure, Franck. Quand il dit à Picasso, dans les années 1907-1908, tu es le plus grand dans le style égyptien, il est quand même un des tout premiers à avoir compris au moment de la naissance du cubisme, puisque les Demoiselles d'Avignon de Picasso, c'est 1907, que Picasso, en associant dans un visage la face et le profil, reprend des éléments que l'on avait dans les œuvres, qui étaient les œuvres anciennes de l'Égypte pharaonique. Et cela montre que ce chrétien, un peu l'idiot du village qu'on a voulu décrire à un moment, c'est quelqu'un qui avait entre autres compris à quel point Picasso avait derrière lui une tradition. À l'époque, très peu de gens l'avaient compris.
Non, même personne.
Personne. Et c'est là où on se rend compte que le douanier Rousseau est nourri, et il est aussi intéressant. Je voulais préciser une chose. Oui. Par exemple, le douanier Rousseau est très admiratif des peintres les plus académiques du temps. Il admire William Bouguereau, dont il trouve que c'est le plus grand peintre des chairs.
C'est-à-dire que s'il fait cette peinture tellement simple, naïve, arrive avec des défauts de perspective et tout, vous êtes en train de nous dire que ça n'est pas une volonté de sa part, c'est parce qu'il fait ce qu'il peut, non?
Il fait ce qu'il peut, et puis surtout, il a une vision qui est en fait une sorte de synthèse de tout ce qu'il peut regarder. Parce qu'il regarde dans tous les... Il regarde la peinture officielle, je viens de parler de Bouguereau, il est ami, enfin il est voisin avec le peintre Félix-Auguste Clément, qui est un orientaliste, lui aussi très officiel. Il aime Jérôme, qui est également un orientaliste, donc il aime la peinture officielle. En même temps, il s'intéresse, il est un des premiers à tout ce qu'on appellera le primitivisme. Il regarde l'art naïf, il regarde l'art du Moyen-Âge, il regarde les illustrations dans les magazines de l'époque, il regarde les images d'Épinal, et tout ça va nourrir aussi ce besoin que l'on a au tournant du siècle, c'est-à-dire au début du XXe siècle, d'aller chercher une autre culture que la culture traditionnelle. Et c'est ce que l'on a appelé les courants primitivistes. L'autre grande figure, c'est Gauguin avec l'Océanie.
Mais comment est-ce qu'il avait eu cette carte rentrée au Louvre quand?
Alors justement, c'est grâce à un des peintres que je viens de mentionner, qui est Félix-Auguste Clément, un peintre tout à fait officiel et qui s'est intéressé au Douanier Rousseau et qui lui a permis d'avoir sa carte de copiste.
Il a comme ça un certain nombre de bonnes fées, hein,
oui.
On peut dire, qui l'accompagnent, qui l'aident, qui ont compris que derrière une forme de maladresse et derrière l'apparence un peu simplette du bonhomme, se cache un univers d'une grande richesse.
Et d'une originalité foncière.
Alors
je pense que toutes les avant-gardes l'ont senti.
Cet univers-là, nous allons maintenant y pénétrer avec joie, avec délectation.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Il. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous parlons peinture. Et quand nous parlons peinture dans le cœur de l'histoire, forcément nous recevons Serge Legas, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, pour parler de l'œuvre du douanier Rousseau, Franck Ferrand.
Alors une œuvre qui n'est somme toute naïve qu'en apparence, disons-le Serge. Et plus on avance dans l'œuvre du douanier Rousseau, plus on se rend compte de la maîtrise assez remarquable qu'il a de ce qui va faire son style. Un style qui est, comment pourrait-on dire, à la fois moiré, ou dans les dégradés, dans les profondeurs, dans les...
Vous avez parfaitement raison, c'est un très grand coloriste.
Il y a un
sens de la couleur chez le douanier Rousseau très présent. C'est aussi quelqu'un qui préparait énormément ses tableaux, contrairement à ce que l'on pensait. Par exemple, pour les portraits qu'il fera, il a fait entre autres un double portrait de Guillaume Apollinaire et de Marie Laurencin, sa muse. Eh bien, Apollinaire raconte à quel point le douanier Rousseau prenait toutes les mesures du visage pour que ce soit le plus juste possible. Il utilisait un instrument que beaucoup d'artistes utilisent, le pantographe, qui permet d'avoir les proportions exactes. Et c'est une fois qu'il avait tous ces détails de vérité du visage, alors qu'après il laissait totalement jouer son imagination. Et c'est là où on arrive à cet art étonnant qu'on a appelé naïf, parce que les personnages ne sont plus en rapport d'échelle avec le paysage. On n'a absolument aucun respect des lois de perspective. Les figures sont en aplat. Les couleurs sont des couleurs riches, mais des couleurs qui n'ont aucune modulation véritable. Alors voilà, par exemple, quand on a oser dire que le douanier Rousseau était proche de l'impressionniste, qu'il était peintre impressionniste, c'est l'antithèse totale. L'impressionniste, c'est la captation de la lumière et
de
la rapidité.
Je pense que ce qu'on voulait dire, les journalistes qui ont écrit ça à l'époque sans le connaître, c'est qu'il n'était pas dans l'art académique.
Absolument, c'est tout simplement ça. Le mot impressionniste prenait cette résonance. Et ce qui est étonnant, c'est que cet art est évidemment à rebours de tout ce qu'on aurait appris dans une école d'art traditionnelle, aux Beaux-Arts bien évidemment, et c'est ce qui a fait que toute une jeune génération a été totalement sidérée, parce que c'est un monde totalement nouveau.
Vous savez, moi j'ai eu une... Alors je vais raconter ma vie là, mais j'ai eu une révélation, on va dire, assez sidérante à propos du douanier Rousseau, c'est que, connaissant assez bien les arts décoratifs dits art déco, donc de la période 1925-1940 en gros, j'étais convaincu que le douanier Rousseau s'inscrivait dans cette mouvance, car ses toiles vont parfaitement bien avec tout ce qui est Ruhlmann, etc. On est vraiment... Or, quand j'ai découvert qu'il avait peint tout ça 20 ans, 25, 30 ans avant la période Art déco. Alors là, j'ai compris qu'il était un précurseur.
Ah, mais il y a vraiment un talent de précurseur. Et ce qui est aussi très, très fabuleux, c'est cette sorte de vision qui se voudrait réaliste dans les sujets et qui est en même temps une vision d'une projection morale. Quand il crée ces jungles où il n'a évidemment jamais mis les pieds, il crée un monde qui est un monde de fantasmes et de rêves. Alors nourri là aussi sur l'observation, puisqu'on sait que pour les jungles, il allait au Jardin des Plantes à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle. Il regardait donc les animaux en cage, il regardait les animaux empaillés et ensuite il les mettait en scène dans des combats d'animaux extraordinaires, dans ce monde par exemple de la charmeuse de serpents où on a une forme absolument étonnante qui se détache sur le paysage et des pitons qui montent au son de la musique. Et tout ça donne une image de rêverie. Et je pense que la phrase d'Éluard que vous avez mentionnée, c'est vrai qu'il y a le sens de l'émerveillement chez le douanier Rousseau, et c'est ce qui peut aussi expliquer, alors entre autres une chose, c'est la fascination des enfants pour l'art de Rousseau.
On peut donner ce conseil à nos auditeurs, c'est un très bon moyen d'initier les enfants
totalement,
à la peinture, ils adorent.
Totalement, parce qu'ils retrouvent des éléments, et justement ce qui est ennuyeux, les calculs de perspective, les respects des traditions et des formes, tout ça les enfants s'en libèrent totalement, et le douanier Rousseau le faisait lui-même en tant qu'adulte.
Il y a dans le rêve que je décrivais tout à l'heure, cet œil d'éléphant au milieu comme ça des grandes herbes qui relève là vraiment de la du plus pur surréalisme.
Totalement. Et je pense que les surréalistes sont vraiment ceux qui se sont le plus retrouvés dans cet univers, parce que justement on part de la réalité et on la transcende. Alors, ce que feront les surréalistes.
On va parler des jungles dans un instant parce qu'elles sont essentielles bien entendu, et puis c'est ce que nous retiendrons, c'est ce que l'histoire, si je puis dire, retiendra du douanier Rousseau. Mais il y a d'autres choses quand même. Alors, les portraits par exemple.
Et le plus étonnant chez le douanier Rousseau, c'est qu'il y a tout. Là, c'est un peintre, il fait du portrait, du paysage, de la nature morte. À mon avis, c'est pas la meilleure partie de son art, parce qu'il est meilleur quand il traite la figure ou le paysage. Mais il a absolument tout traité. Il a traité l'allégorie, son tableau sur la guerre est une œuvre absolument étonnante, représentant une sorte de figure terrifiante dans le ciel, qui domine un champ de ruines avec des cadavres et qui montre évidemment toute l'horreur universelle de toutes les guerres qui ont transcendé le monde.
Et tout ça, encore une fois, pardon, mais avant la Première Guerre mondiale.
Absolument, il y a un côté étonnamment large et ouvert. Donc en plus, Douanier Rousseau n'est pas un peintre spécialisé sur un thème. C'est vrai que les jungles vont un petit peu oblitérer le reste, mais il y a absolument tout. Et il a même une sorte de création personnelle. Moi, je dois dire que c'est une des choses que j'aime beaucoup chez Douanier Rousseau, c'est ce qu'il appelle lui-même mes portraits-paysages. Or, portraits-paysages, c'est dans une tradition, c'est ce qu'on faisait à la Renaissance, placer les figures sur un fond paysager, mais lui traite ces fonds paysagers avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et très souvent, dans les paysages du Rousseau, dans les fonds de ses tableaux, il y a la preuve de la modernité. Ce que je trouve très sympathique chez le douanier Rousseau, c'est qu'il a une sorte de croyance naïve que le progrès apportera le bonheur. Par exemple, dans des paysages des environs de Paris, on a dans le ciel des aéroplanes, on a des ballons, on a des dirigeables, on a la représentation d'un monde qui évolue. Il est quand même un des rares peintres avec Seurat à avoir peint la tour Eiffel en cours de construction. Elle est dans un de ses tableaux.
Avec joie, hein,
et il l'a peint, voilà. Et la tour Eiffel, que Maupassant
détestait.
Mais il y a deux peintres qui ont voulu l'immortaliser au cours de sa création. Encore une fois, c'est Seurat et le douanier Rousseau. Ce qui est quand même assez intéressant. Petite parenthèse, en parlant de Seurat, quelqu'un qui a beaucoup soutenu, vous parliez des fées protectrices, c'est Paul Signac. Si le douanier Rousseau a pu exposer au Salon des Indépendants, c'est grâce à Signac.
Et c'est là que les coloristes se reconnaissent d'une certaine manière.
Exactement. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu voir l'œuvre de Rousseau. Puisqu'évidemment, le Salon officiel, en 85, on présente, le refuse tout de suite. Et c'est Signac qui l'introduit dans le monde des artistes indépendants et qui l'accueille au salon.
Pourquoi est-ce que tout a toujours l'air d'être un peu comme ça, flottant, un peu comme arrêté dans l'instant, comme...
Alors, c'est un art totalement
photographique.
Mais la photographie est une des choses qui l'a beaucoup fasciné. Donc, le lien est direct. Il aime la photographie. Il aime tout ce qui relève de ces images immobiles, de ces images figées. Et c'est aussi ce qui parfois donne des visions étonnantes. Il a fait peu de portraits d'enfants, mais quand il peint les enfants, il est à rebours. Alors là, totalement de tout ce que le 19e peut représenter, le bel enfant à la Renoir, etc. Lui, au contraire, c'est des sortes de petits adultes en réduction, avec des regards un peu inquiétants. C'est des enfants qui sont, d'une certaine façon, dérangeants quand il les représente. Il en a peu fait, mais ce sont des tableaux très très forts. Et Picasso s'en est souvenu quand il fera entre autres le portrait de sa fille Maya.
Quand on parle d'un peintre de la Belle Époque, on a à l'esprit évidemment un peintre d'atelier. Alors on l'imagine dans son grand espace tridimensionnel avec la verrière au nord, avec les grands chevalets, etc. et les modèles et les scènes et les prosceniums et tout ça. C'était ça,
non,
le douanier.
Il aura à Montparnasse un tout petit atelier, mais vraiment à la fin de sa vie, il avait un tout petit atelier. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand il s'installe dans le 14e arrondissement, rue Perelle, c'est pour ça que certains l'appellent le maître de plaisance, puisqu'évidemment c'est une partie du quartier qu'on surnomme le quartier de plaisance. Donc il devient pour Apollinaire le maître de plaisance. Mais non, il aura un tout petit atelier. On est très très loin, encore une fois, de toutes les traditions picturales qui sont celles que l'on imagine au 19e siècle et au début du 20e.
Et alors, puisqu'il avait autour de lui des gens comme Picasso, comme Delaunay, comme tout, et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas en quelque sorte aidé matériellement pour qu'il ait son véritable atelier, qu'il ait ses aides et tout? Parce que si je comprends bien, il préparait lui-même ses couleurs,
etc. Il travaillait vraiment. Il y avait un côté autodidacte à la base et puis ensuite assez solitaire. En même temps, il y a quand même une aide. On se rend compte. Alors justement, ça aussi, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir de 1903, il y a une reconnaissance qui commence. C'est-à-dire
dans
que
le
les
milieu
marchands,
de l'art. Voilà.
Absolument. Les marchands s'intéressent à lui. Le plus célèbre, c'est Vollard. Mais il y a Brumaire également qui lui achète des œuvres. Il commence à avoir des commandes, alors que lui qui rêvait d'avoir des commandes officielles n'en a jamais eu, mais il commence à avoir des commandes privées. Par exemple, la mère de Robert Delaunay lui commande un tableau. Donc, il y a autour de lui quand même un soutien qui se met en place. Et alors ça, c'est l'ironie des choses, puisqu'il est mort de gangrène à l'hôpital Necker, totalement seul. Il est mis à la fosse commune. Et c'est vraiment très paradoxal parce que en 1910, c'est vraiment le moment où sa carrière devenait une carrière reconnue, où même les journalistes commençaient à s'intéresser à lui, lui dont on s'était surtout beaucoup moqué, parce qu'en fait, l'œuvre de Rousseau, elle faisait rire.
Au départ,
ceux
oui.
qui la connaissaient en étaient là pour se moquer. Eh bien, le début du XXe siècle, c'est le changement. Hélas pour lui, il est atteint par la maladie, il meurt de gangrène, et il n'aura pas le temps de connaître cette consécration.
Combien de ces jungles stylisées
Alors, l'œuvre de Rousseau, c'est aussi un gros problème. C'est-à-dire qu'on pense qu'il a peint entre 250 et 300 tableaux, on est certain qu'il y a plus d'un tiers de la production qui est perdue à tout jamais. Les tableaux ont été détruits parce que le douanier Rousseau, eh bien, comme le faisait Van Gogh en Arles, il le donnait à sa blanchisseuse pour payer une dette qu'il pouvait pas payer. Il le donnait. Donc, beaucoup de tableaux étaient donnés à des gens qui les regardaient en disant, mon Dieu, quelle horreur, qu'il les laissait de côté, qu'il les laissait se détruire. Donc, on a toute une production qui a disparu. L'œuvre, entre guillemets, je peux pas dire de jeunesse, puisqu'il a commencé la peinture à 40 ans. Mais, dans les premiers tableaux, on connaît très peu de choses. La production de Douanier Rousseau, c'est la fin des années 1890 et 1900 jusqu'à 1910, sa mort, où on a vraiment des productions qui sont connues.
Retrouver un douanier Rousseau fera moins de bruit que retrouver un Caravage. J'imagine.
Tout à
ça
fait.
Ça forcément. Mais enfin, néanmoins, ça doit être une possibilité.
C'est une possibilité. C'est une possibilité, même si on pense que beaucoup de ces tableaux ont été mal conservés, pas entreposés, considérés comme de la peinture absolument sans intérêt. Mais je fais ce parallèle avec Van Gogh. N'oubliez pas qu'on avait quand même retrouvé à Arles des tableaux de Van Gogh qui servaient de mur pour des clapiers à lapins. On a parfois retrouvé certains tableaux dont on ne savait pas que faire et qui servaient comme cela. Il est possible que pour le douanier Rousseau, on puisse faire quelques découvertes.
Il y a une espèce d'hécatombe autour du douanier Rousseau, pardon de revenir un instant à sa biographie, mais il perd tous ses enfants.
Ah oui, tous ses enfants.
Incroyable.
Il y en a deux seuls qui atteindront l'âge d'adulte. Les deux femmes de sa vie meurent.
Oui, alors la première
lui.
Meurt d'une tuberculose en
Absolument.
1888.
Et la deuxième meurt en 1903.
La deuxième qu'il épouse en 1900, par là.
Voilà.
Hein,
donc
ça va pas durer longtemps non plus.
Alors là aussi, des petites choses touchantes. Il y a un très très beau tableau. Moi, j'aime beaucoup, je l'ai dit, le thème des portraits paysages. Alors son autoportrait qu'il appelle, ça c'est très les titres aussi à la Rousseau, moi-même portrait paysage, eh bien moi-même portrait paysage qui est à Prague, sur sa palette, mais pas lisible pour nous. Faut vraiment faire attention parce que c'est pour lui. Il y a écrit Clémence et Joséphine. Il a le premier nom de sa femme et puis il avait rajouté le nom de sa maîtresse qu'il efface et il met le deuxième nom de sa deuxième épouse à la place. C'est ça aussi, c'est le côté très charmant du douanier Rousseau qui était sans aucun doute un personnage étonnant mais qui devait avoir un côté assez séduisant au-delà de son côté justement un peu naïf, encore une fois caricatural pour certains. Il y avait derrière ce qui peut expliquer qu'il se soit laissé aller dans cette escroquerie absolument ridicule où il est un peu le dindon de la farce.
Vous savez ce qu'il y a sans doute de plus touchant chez le douanier Rousseau? On a beaucoup parlé de la stylisation, on a beaucoup parlé de la naïveté, du colorisme, etc. Il y a une chose qui est très présente, qui nimbe littéralement l'étoile du douanier Rousseau, c'est la tendresse. Il est d'une extrême tendresse. Et je pense que c'est peut-être le secret des œuvres d'art qui ne vieillissent pas, c'est la tendresse. Et il faut aller les voir, ces tendres toiles au musée d'Orsay, donc.
Et voir vraiment une exposition, vous l'avez dit très justement, originale, intéressante, qui n'est pas une simple rétrospective, qui est une mise en abîme de l'œuvre de Rousseau avant-après, et qui apporte un éclairage tout à fait original et intéressant, et qui remet beaucoup de choses à leur place, et entre autres, qui libère un peu, justement, le douanier Rousseau de toute une littérature un peu facile qu'on avait autour de lui. C'est un personnage qui mérite beaucoup plus qu'un premier regard, et c'est une œuvre, effectivement, où il y a une forme d'empathie qui est extrêmement touchante.
Et alors, en sortant du musée d'Orsay, c'est tout simple, il suffit de traverser la Seine, ce ne sont pas les passerelles qui manquent dans le coin, pour se rendre au musée de l'Orangerie, où se tient jusqu'au 18 juillet une exposition sur le grand ami, on va dire, du douanier Rousseau, sur Apollinaire. Ça s'appelle Le regard du poète et c'est une exposition très esthétisante.
Très esthétisante et les deux sont totalement complémentaires, absolument.
Donc Le douanier Rousseau, c'est au musée d'Orsay et Apollinaire, Le regard du poète, c'est au musée de l'Orangerie. Merci beaucoup Serge Lega. Je sens que nous allons donner des envies de promenade printanière à beaucoup de nos auditeurs.
Je l'espère.
Et en parlant de balade printanière, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous donne les origines du pique-nique.
Europe 1, au cœur de l'histoire, Marion. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec aujourd'hui pour vous, Franck, une question de Jules sur le site internet europe1.fr. Il voudrait connaître les origines du pique-nique.
Si j'ose dire, et je sens qu'on va rire autour de moi, dans pique-nique, il y a pique.
Oui.
Le verbe piquer, dans le sens de picorer, grignoter. Et puis l'autre mot est à prendre dans le sens de petites choses sans valeur. Une nique, c'était ça autrefois, une petite nique, une petite chose. Donc on attrape des petites babioles, c'est ça. Au début du XVIIIe siècle, pique-nique était accordé au féminin. On disait une pique-nique. Et puis le mot petit à petit a changé, vous savez. Et d'ailleurs, on écrit aussi parfois pique-nique, P-I-C-N-I-C. C'est moins joli, je trouve, mais enfin bon, pourquoi pas. Alors, c'est un repas pris à la campagne, un repas collectif, bien entendu, un repas de fête, d'amusement, dans les bucoliques. Déjà, le poète Virgile, on est là à peu près à l'époque du Christ, décrit certains repas pris par des bergers au milieu de leurs troupeaux. C'était une pratique très courante au Moyen-Âge et qui s'est développée à partir de la fin du XVIIe siècle. Alors là, dans des milieux beaucoup plus raffiné, et on a inventé des repas campagnards, des repas champêtres dans l'herbe qui étaient au moins aussi raffinés que ce qu'on pouvait trouver dans les plus beaux salons et les plus belles salles. Au XIXe siècle, des pique-niques révolutionnaires ont lieu au moment des fêtes républicaines. À ce moment-là, le peuple peut profiter des jardins, des parcs, des forêts qui sont ouverts spécialement. Et puis, le pique-nique va devenir en quelque sorte un des symboles de l'art de vivre du XIXe siècle. Ai-je besoin de vous renvoyer à Maupassant, de vous renvoyer à Zola ou de vous renvoyer, bien sûr, cher Serge Lega, à Manet.
Le déjeuner sur l'herbe.
Exactement, le déjeuner sur l'herbe 1863. On appelait le bain ou la partie carrée. Et c'est un pique-nique, en fait.
C'est Manet qui le surnommait ma partie carrée.
Oui, ça, c'était un petit peu...
autre chose.
Voilà. Ben, oui, mais on revient finalement, la boucle est bouclée, si je puis dire. On revient à la thématique du début de cette petite chronique.